tu as la parole.
Oui, mais je la demande, la parole.
Ah, ça marche, ça.
Oui, c'est bon.
C'est bien, ça.
Oui, bon, les raisons pour lesquelles, bien, j'ai entendu à peu près.
Et comment, toi, tu as fait pour
Oui, alors, pour avec Maurice, d'ailleurs, on a fait ça ensemble. On est allé chercher les registres dans les écoles, donc on a posé la question avant même de commencer le travail à la direction de l'école, savoir s'ils ont encore des registres qui datent de cette époque. Donc c'était assez précis, puisque c'était une fourchette de dates qui nous intéressait, et le reste ne nous intéressait pas. C'était 42-43. 1942-43, qui nous intéressait le plus. Et il y a eu le maximum de rafles et de déportations à Nice, dans la région.
Et même 44, hein, parce que je crois que Simone Veil, elle a été arrêtée en 44.
Oui.
Elle a fait partie...
En jusqu'à 44, disons. D'accord. Après, ça ne va pas plus loin. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Vous parlez de la recherche des registres.
Oui, oui.
Ah, pour la recherche des registres, il fallait évidemment contacter les directeurs des écoles où on désirait avoir le registre, et il fallait commencer par là, évidemment. Donc, dès le départ, on a appris que toutes les écoles n'avaient plus de registre. Et ceux qui en avaient, c'était ceux qui nous intéressaient, évidemment.
D'accord. Et excusez-moi de vous couper, mais du coup, c'est quand est-ce que vous avez commencé ces recherches?
2003.
Dès la création de l'association.
Dès 2003, la création, 2004. Hein.
D'accord.
Ça, oui. Voilà, on a commencé à faire des recherches.
Mmh. Mais est-ce que vous avez trouvé facilement ces registres?
Non. Alors, j'ai commencé par mon école, Fioncoda. D'accord. La première école où nous avons commencé à rechercher la liste et le registre des élèves. Et là, c'était la direction de l'école ne savait pas du tout trouver ces registres. Donc, ils nous ont demandé d'aller chercher dans les caves où vous avez bien trouvé ces registres. C'est ce qu'on a fait. Et je suis tombé par hasard sur le registre de l'école Fioncoda. Alors ça, c'était vraiment le top, puisque les registres à partir de 1900 et quelques jusqu'à la libération. Donc ça a permis déjà de faire ressortir le nom des élèves déportés dans les dates critiques.
Et du coup, qu'est-ce qui attirait votre attention sur certains noms?
Ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Comment vous me disiez, ah ben celui-là, on sait qu'il a,
été déporté. Ben là, nous avions les travaux de Klarsfeld.
Ah oui.
Mais d'abord, on a cherché avec les noms à consonance juive.
Oui.
Parce que ça a été notre première recherche quand on arrivait à avoir un registre, c'était de chercher avec les noms à consonance juive.
D'accord.
Alors, d'abord, on a la première chose, si vous permettez, la première chose qu'on a faite, c'est avec les registres de Klarsfeld, oui, on a mis de côté tous ceux qui ont été arrêtés dans les Alpes-Maritimes. Mm-hmm. Donc c'était là, c'est le résultat de ces recherches, hein, je voulais l'amener. Donc notre première recherche, ça a été ça. On a pris les livres de Klarsfeld et on a pointé tous ceux qui étaient, d'abord tous ceux qui avaient moins de 18 ans, première mm-hmm. chose, et tous ceux qui ont été arrêtés dans les Alpes-Maritimes. Donc ça a donné cette liste. Là, c'est la liste. Après la liste, on a fait un tri par ville. Mmh. Et ensuite, on a pu prendre ces listes, donc on avait une liste de noms, On a pu prendre ces listes et comparer avec ce que vous avez là, c'est-à-dire j'ai fait deux photos des registres.
D'accord.
Okay. Et quand on trouvait un nom sur les deux listes, on savait que c'était quelqu'un qui avait été déporté.
D'accord. Donc c'est vraiment un travail de fourmi.
Ah oui. Mais
ce qu'il raconte là, c'est qu'au parc impérial, au début, on lui avait dit qu'il n'y avait pas les registres.
Ah, on lui a dit qu'ils étaient vraiment pas du tout.
Oui. Donc ils ont, avec Maurice, donc Marie qui est décédée il y a 3 ans maintenant, ils ont demandé s'ils peuvent quand même aller à la cave. Je le raconte pour toi, puisque tu ne le racontes pas.
Donc on est descendu dans la cave, et dès que nous avons vu les listes, les registres, je me suis précipité, j'avais un petit appareil, un Sony photographique, et j'ai photographié chaque page des registres, ce qui permettait de travailler chez moi. Donc j'avais tout le temps, la nuit, le jour, et n'importe quel jour. Donc c'était ça qui permettait de dépister les noms et de trouver ce qu'il
fallait. Les registres, on n'avait pas le droit de les sortir. Ils sont toujours au parc après.
Du coup, nous, on est en... enfin, les registres qui concernent cette période-là, ils sont
aux archives.
Aux archives départementales, ils sont plus au lycée maintenant.
D'accord.
Ouais. Ouais, et ceux de Calmette, on a pu les sortir.
Mais à Calmette, moi, je me souviens qu'on prenait, on a commencé en prenant les noms à consonance juive.
Oui. Bien sûr.
Voilà.
Mais on a surtout comparé.
Après, on a pu avoir. Parce que on n'est pas des chercheurs professionnels, donc on n'avait pas de technique. Donc on a fait au nez, quoi. Donc, je me souviens qu'à Calmette, on s'y est quand même pas mal enquiquiné. Hein.
Partout, ça a toujours été.
Oui, ça a été.
D'ailleurs, la première plaque a été posée en 2005, alors que l'association a été créée en 2003.
Et du coup, pourquoi au parc impérial, ils ne voulaient pas donner ces registres?
Parce que c'est des registres qui appartiennent à l'établissement et qui ne voulaient pas qu'on prenne les registres et qu'on ne les ramène pas. Ou je sais
ouais,
pas.
D'accord. Okay. Et du coup, par rapport à votre association, donc, comment vous la définiriez? Qu'est-ce que c'est, selon vous, la MUJDAM?
Alors, l'association, là, je vous ai fait une petite définition.
D'accord.
J'ai quand même préparé, j'ai quand même répondu à vos petites questions, parce que je trouvais que c'était quand même plus simple que vous ayez... Ça, c'est tout ce qu'on a fait. Donc, je vous l'ai amené,
ouais.
Puisque c'est toutes les plaques qu'on a faites. Que je retrouve mon truc. Ben, la MUJDAM, c'est un groupe de personnes. C'est à Paris, ça a été créé. C'est une AMEDJ, c'est-à-dire une association pour la mémoire des enfants juifs déportés. Ça a été créé à Paris par des frères et sœurs d'enfants déportés qui ne voulaient pas que leur histoire, en général c'était les plus jeunes, hein, les plus âgés ont souvent survécu parce qu'ils travaillaient. Vous avez pris, c'était des vrais esclaves, mais ils ont survécu alors que les petits, vous savez que quand les enfants très jeunes, moins de 15 ans, on les amenait de suite au four crématoire, enfin à la chambre à gaz au four crématoire. Donc quand les aînés sont revenus, ils ne voulaient pas que leurs petits frères et sœurs soient complètement oubliés. Et ils ont créé donc, une association pour la mémoire des enfants juifs déportés. Donc c'était à Paris. Et moi, ça m'arrive de voyager. Et j'ai vu ça. Je trouvais que c'était bien de faire ça. Et il y a quelqu'un qui venait de Paris et qui ne connaissait pas grand monde. Et bon, ensemble, on a créé cette association. Elle s'appelle Maurice Linikamen. Et on a créé cette association ensemble en se disant, bon, on a rajouté AM, les Alpes-Maritimes.
D'accord.
Voilà, c'est logique. Et il y en a dans différentes villes, mais pas dans toutes les villes.
D'accord. Et du coup, l'idée de faire des plaques commémoratives et de les placer sur les établissements, d'où est-ce que est venue cette idée?
L'idée, c'est des Parisiens.
D'accord.
Donc il y a toujours deux plaques, une à l'extérieur, vous l'avez vu,
oui.
À l'extérieur on marque simplement qu'il y avait des enfants qui étaient scolarisés dans cet établissement et qui ont été déportés, et à l'intérieur on marque les noms.
D'accord. Okay.
C'est le principe, on a adopté le principe des écoles parisiennes.
D'accord. Et votre but pour...
Notre but c'est le même, si ce n'est que ce n'est pas nos frères et sœurs, mais ce sont des enfants qui n'ont rien fait, hein, par définition, un enfant est innocent. et qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils étaient juifs et qui ont été transportés dans des conditions épouvantables et assassinés à Auschwitz. Mmh.
Donc c'est un souci de mémoire.
Un souci de mémoire.
Et aussi, à l'origine, dans la création de cette association, tout de suite s'est joint un grand nombre d'enfants cachés qui avaient survécu, moi je fais partie de ceux-là, qui ont survécu à la guerre et qui n'ont pas été déportés. Donc évidemment, on se dit, moi j'ai survécu, mais mon petit copain de l'époque ou ma petite copine, bah, ils ne sont plus là. Donc c'était pour chacun de nous aussi une nécessité.
Et du coup, vous étiez un enfant caché, c'est ça ?
Moi, je suis une ancienne enfant
d'accord.
Caché.
D'accord. Mais c'était par quel réseau ? Enfin,
pardon ?
Par quel réseau vous avez...
Il y a différents réseaux, parce qu'à l'origine, c'est une loi qui a fait que les enfants juifs n'avaient pas le droit de fréquenter les établissements de la République. Mmh. Donc, on a été chassés. Moi et mes sœurs, nous étions, maman étant malade, on était à l'assistance publique, c'est l'ancienne DAS, et du jour au lendemain, on a été mis à la porte, c'est-à-dire qu'on est rentré en plein été, et on nous a chassés en plein hiver, avec les petites robes d'été, et les petites sandales très jolies, mais qui en hiver, et on nous a mis à la porte, comme ça. Donc, et c'est le gouvernement de Vichy qui avait créé une association, je crois que c'était une association, l'UGIF, c'est-à-dire l'Union Générale des Israélites de France, qui était chargée de récupérer tous les enfants qu'on chassait de partout. Donc on s'est retrouvés dans un établissement de l'UGIF, lequel établissement, comme... Il n'y avait que des enfants juifs là-dedans. La police de Vichy venait prendre autant d'enfants dont ils avaient besoin pour compléter les convois. Donc, quand je dis qu'effectivement, moi je suis là, mais mes petites copines et mes petits copains de l'époque, je les voyais partir et je les voyais pas revenir. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour les plus jeunes enfants. Moi, je faisais partie des plus jeunes.
Allez, vous aviez quel âge ?
J'avais 5 ans.
D'accord.
Donc, à cette époque-là. Donc, c'est les lois de Vichy qui ont fait que on a été chassés des écoles, de tout, même des hôpitaux. Enfin, donc voilà.
Mais, et du coup, comment vous avez été cachés ? Enfin, comment vous êtes partis
de... Ah, ça, c'était bien compliqué, parce qu'on n'avait pas le droit de bouger de l'endroit où on était. Mmh. Et finalement, l'organisation juive a décidé quand même de... d'abord, on a été dispatchés dans la banlieue parisienne, parce que ça se passait à Paris. Mmh. Dans la banlieue parisienne, mais on a fait un nombre de caches avec ma sœur. On en a répertorié le jour où on s'est décidé, je ne sais plus si c'est 17 ou 27 familles d'accueil. 17. Ah oui. 17.
D'accord.
Donc, on nous prenait à un endroit, et puis il y avait quelqu'un qui revenait nous chercher, on ne savait pas qui c'était, et on nous emmenait ailleurs, enfin c'était... c'était toujours l'angoisse pour en tout cas les enfants. Moi, j'avais des sœurs plus âgées que moi qui essayaient toujours de me rassurer, mais on savait pas où on allait. Alors quelquefois on revenait au centre de Paris, qui était rue Lamarque, enfin il y en a eu plusieurs, ou bien quelquefois on allait ailleurs sans savoir où on allait.
Il y avait zone occupée et zone...
Oui,
il y
avait...
Le Féo n'a pas eu la même histoire puisqu'il était ici déjà.
Oui, c'est pas... Oui.
Et vous étiez aussi un enfant caché ?
Oui, j'étais un enfant caché, mais enfin, je n'étais pas caché pendant une certaine période, lorsque ailleurs ils étaient cachés.
Oui, parce que ici c'était la zone libre.
Et après c'était l'occupation italienne.
Mais j'étais en puissance un enfant qui était menacé. Je le savais. Enfant, j'avais été adolescent. Et je connaissais déjà les problèmes au point de vue éducation nationale par les affaires aux questions juives où il était fait une réserve en ce qui concernait sur la faculté pour les enfants juifs de continuer leurs écoles, leurs études. Et nous avions des problèmes à ce niveau-là.
Donc tu as dû interrompre l'école.
Oui, alors je n'avais pas encore interrompu les écoles, car il y avait les Italiens, voilà. Il n'y avait pas les Allemands. Ceux-là, ils étaient occupants d'où ? Ils ne déportaient pas, ils faisaient prisonniers dans les camps d'internement, mais ils ne déportaient pas.
Et du coup, comment, quand les Italiens sont partis, comment vous avez survécu
Tout s'est fait en même temps. Le jour où les Italiens ont dû partir, ils se sont sauvés d'ailleurs, eux-mêmes. Mmh. Ils fuyaient les Allemands, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas de pitié pour eux. C'était des amis, des collabos entre eux. Mais le jour où les Allemands ont voulu prendre le dessus parce qu'ils sentaient que les Italiens n'étaient pas des nazis. Donc, ils sont rentrés dans les régions occupées par les Italiens pour les chasser de là. C'est ce qui s'est produit à la fin, lors d'une signature d'armistice entre alliés et les gens des pays occupés. Voilà. Donc, que dire de plus ? Il y a beaucoup à dire.
Est-ce que vous voulez qu'on revienne vers le parc impérial ?
Oui, enfin, si vous avez autre chose à dire. Enfin,
le parc impérial.
Mais disons que l'histoire des jeunes et des enfants du parc impérial, c'est un peu ça, quoi. Enfin, donc, ce que vous vient de dire, là, à la différence de Paris, c'est qu'à Paris, il n'y avait pas les Italiens, on n'avait aucune protection, tandis qu'ici, les Italiens ont quand même protégé pendant un temps.
Ah oui, jusqu'en 1943.
Et mon père a été arrêté par les Italiens dans la région dite libre, comme résistant.
Ah, comment
oui.
Et vous êtes le seul survivant de votre famille ou...
Alors, nous, on était largués par de ce fait, puisque j'étais avec ma sœur et ma mère, donc comme famille. Et on a continué à vivre, à essayer de travailler pour survivre. Voilà.
Et du coup, comment vous viviez pendant cette période
Tant que nous étions libres dans cette zone, qui n'était pas encore occupée, on pouvait vivre comme tout le monde, c'est-à-dire vivre de son travail, du commerce, ou du salaire dans une entreprise. Après, il n'était plus question, évidemment, quand les Allemands sont venus occuper la zone comme ils ont fait dans le nord, ils ont occupé la zone nord, ils ont occupé la zone sud, et ils ont repris l'occupation du pays en entier en France. La France était occupée à moitié au départ, il y avait une zone occupée. Non. Et lorsque les Allemands ont vu que les Italiens n'étaient pas assez sévères vis-à-vis des Juifs et de tous les autres, ils ont récupéré la zone dite libre pour l'occuper.
Les Italiens qui ont signé un armistice avec les Alliés.
Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit, justement.
D'accord. Du coup, Est-ce que, concernant les élèves donc, qui ont été déportés du parc, est-ce que vous avez des informations concernant leur arrestation, enfin leur parcours, même si c'est des petits détails par-ci, par-là, comme ça, enfin quelque chose qui...
Pour certains, oui, puisqu'on a recherché s'il y avait des familles. Mmh. Alors, bon, le frère de Simone Veil, ça, il n'y avait pas de problème, puisqu'il y avait Simone Veil pour en parler. Elle est d'ailleurs venue avec sa sœur, son mari, et le mari de sa sœur. Et donc, ben, c'est juste pour ça que je vous ai fait les photos. Voilà, de toute façon, ça c'est pour vous. Hein. Oui. Il y a ça pour vous. Là, vous avez aussi ces, les plaquettes de présentation. Ça, je vous en ai amené une chacune. Il y a eu. Donc, on a fait quelques recherches. On a trouvé aussi Gleichenhaus. Vous verrez. Et sa nièce et sa petite-nièce sont venues nous raconter, justement. Et il y a eu un monsieur qui est venu et qui a dit qu'il connaissait les Ventura, parce que c'était annoncé dans la presse.
Oui.
Et il connaissait les frères Ventura, et il savait qu'un jour, ils avaient disparu, mais il ne savait pas ce qui s'était passé du tout.
Mmh.
Donc, il était très ému de venir là, et on a parlé avec lui, parce qu'il disait que ça a toujours été un mystère de voir ces garçons qui étaient en classe, et puis un jour, ils ont disparu. Et pendant 70 ans, il n'avait pas su ce qui s'était passé. Donc, on a parlé avec lui. Et puis, bon, il y en a certains dont on n'a pas de... On sait seulement qu'ils ont été arrêtés. Mais si toute la famille a été arrêtée en même temps, on n'a pas pu savoir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé Serge Hersfeld, qui, lui, a quelquefois des détails sur l'arrestation. Et surtout, qui sait... On sait par les livres qu'il a fait si la famille a été arrêtée avec ses garçons ou si ce sont juste eux qui ont été arrêtés.
Mmh. Et là, concernant ces enfants-là...
Alors, concernant Gleichenhaus, il n'y a que lui qui a été arrêté. Son frère a survécu. Il était médecin à Saint-Martin-Vésubie, justement. Donc, il y a un lien. Et sa belle-sœur, donc la femme de son frère, était venue aux inaugurations et c'est elle qui nous a un petit peu raconté l'histoire. Donc l'arrestation, alors que les autres étaient, le reste de la famille, c'est-à-dire le frère aîné, a été protégé. Donc c'est comme ça qu'on a eu des petites bribes qui
avaient... Il y a aussi une chose que je veux vous préciser, c'est que chaque fois qu'on a mis des plaques dans les différents établissements, et ça, les gens l'ont su par la presse, il y a toujours eu des gens qui sont venus nous donner des renseignements qu'on n'attendait pas sur certains enfants ou certaines familles. Et on a eu, chaque fois qu'on a eu mis des plaques, on a eu quelquefois des situations mais complètement bouleversantes. Je pense à Antibes.
Antibes, une femme qui a donné des renseignements que même Clarcel n'avait pas. C'est-à-dire que c'était trois petites filles. Il y avait une adresse à Antibes, une adresse à Saint-Martin, puisque Saint-Martin vous intéresse aussi. Et on a fini par savoir, donc c'est une des dernières plaques qu'on ait posées. Et c'était il y a deux ans, il y a trois ans.
Il y a deux ans.
Et il y a une dame qui est venue, donc quand on a parlé, quand on a fait la cérémonie, et moi j'ai dit, bon ben voilà, il y a trois petites filles qui étaient là, on ne sait pas exactement les conditions de l'arrestation, et il y a une femme qui s'approche, qui dit, mais moi je peux vous raconter.
Ah bon ? Mais c'est vrai que c'est très surprenant, c'est extrêmement émouvant, parce que les gens ouvrent leur cœur et leur... Dans une circonstance très, sur le plan émotionnel, très grande. Donc là...
C'était...
Très tard, puisque c'est...
C'était il y a deux ans.
Oui, c'est ça.
Antibes.
Et elle a raconté que son père a essayé de les sauver. Son père connaissait toute la famille. Il y a une partie de la famille qui a pu partir en Suisse. Et donc, ces trois petites filles et leurs parents ne sont pas partis. Et on a voulu mettre les trois petites filles à l'abri à Saint-Martin-Vésubie. Et en fait, les Allemands étaient là, il y a eu une rafle, et ces petites filles ont été arrêtées, et les parents par la suite aussi. Donc les parents avaient déjà été arrêtés.
Oui, mais après, quand elles étaient à Saint-Martin-de-Vésubie...
Vous pouvez la rencontrer, cette dame.
Et quand elles ont été à Saint-Martin-de-Vésubie, le monsieur en question, donc, a essayé de les récupérer.
Oui.
Et il n'a pas réussi.
Et la dame, elles étaient dans une maison d'enfants.
Elles étaient au Clos Joly.
Au Clos Joly, exactement. Et la directrice du Clos Joly n'a pas voulu donner ça. Alors, le père de cette dame... Daniel Solier, elle s'appelle. J'ai ses coordonnées, mais pas ici. Et il a voulu récupérer les petites filles en disant qu'il les connaissait, et elle a dit qu'elle voulait avoir un truc officiel. Donc, comme les parents des petites filles étaient déjà arrêtés, il a écrit à l'oncle qui était passé en Suisse. Bon, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait rien à l'époque. Donc, le temps que la lettre parte et l'autorisation de l'oncle arrive, les petites avaient été déportées. Ah oui. Et quand elle en a parlé, c'était terrible parce qu'elle était encore émue de cette histoire.
Oui, oui, oui.
Ça, vous pouvez la rencontrer puisque c'est une histoire entre.
Bah oui, ça peut être.
Et qui est entre Antibes et Saint-Martin.
Pour nous, c'est très récent.
Oui.
Et ce qui était étrange, c'est que même Serge Klarsfeld ne savait pas. Bon, pour moi, lui, c'est énormément de choses. C'est vraiment la personne de référence. Et lui, il ne savait pas. Il savait qu'elles étaient passées par Saint-Martin. Mais il ne connaissait pas les faits exacts de l'arrestation. Donc là, on a pu renseigner.
Et par rapport à Saint-Martin-Vésubie, vous avez il y a des gens encore qui peuvent témoigner sur cette histoire ou pas ?
Il faudrait que je demande à Lieberman, dont le beau-frère était à Saint-Martin-Vésubie. Alors il y a un petit garçon qui était au Clos Joly, qui s'appelle... Mais j'ai les noms à la maison.
Mais vous étiez à Saint-Martin-Vésubie. Ce qui s'est passé au Clos Joly et ce qui s'est passé à Saint-Martin, c'est resté complètement sous silence. Mon fils est allé régulièrement en vacances pour le ski au Clos Joly à Saint-Martin-Vésubie et on n'a jamais rien su. Donc, c'est quand on a commencé, quand Michel a commencé à faire des recherches, que tout d'un coup, moi, j'apprends que là où mon fils a passé toutes ses étoiles et tout ça au ski, eh bien, c'était le lieu où les enfants juifs étaient.
Donc, alors, ils étaient cachés, là, normalement. Mais là, ils avaient été pris sur la place.
D'accord. Et donc, du coup, vous pensez qu'il y a très peu de personnes qui peuvent...
Il y en a très peu.
Ouais. Et ces personnes, c'est des personnes qui ont été témoins, qui ont vécu...
Ce petit garçon, sa maman lui avait dit, fais attention, quand tu vois qu'il y a des camions, qu'il y a beaucoup d'agitation, il faut que tu te caches. Donc quand il a vu les camions arriver avec les Allemands, et il est allé se planquer. Et il est ressorti quand il n'y avait plus personne. Donc c'est comme ça qu'il a été sauvé.
Mais il était voisin de Presque Unique, enfin le nom.
Presque Unique, voilà, c'est ça. Presque Unique.
Presque Unique, oui.
Ouais. J'ai ses coordonnées à la maison, donc je peux...
Et des gens qui ont fait justement la marche à travers les Alpes, ça m'est...
Alors, il y a quelqu'un qui a fait un film là-dessus, justement. Il a fait la marche, mais comme bébé.
Ah oui, mais c'est un documentaire. Oui, j'ai vu ce documentaire, justement.
Ah bon, ouais. Il est bien, ce documentaire. Oui, mais lui, on peut peut-être le contacter.
Oui. Et donc lui, c'était bébé.
Il était bébé, il avait besoin de refaire ce parcours, d'essayer de retrouver, d'aller voir un petit peu la démarche que tu fais pour retrouver les traces de ton grand-père. Et lui, c'était Waxman.
Mais c'est une nécessité parce que mon beau-frère, le mari de Jacqueline, avait aussi donné de l'argent pour que, ça c'était dans la Creuse ou je ne sais plus trop où, un bébé qui était né dans ce village et est devenu producteur de cinéma et a fait un film sur ce village.
Oui, ça s'est arrivé très souvent, on a besoin.
Ça s'appelle Les armes de l'esprit, ce film.
Ah oui, c'est un très beau film.
Ben, oui.
Eh ben, c'est sur le sauvetage par les protestants.
Oui, oui.
Très bon film.
C'est Joseph qui a... Ouais. Et c'est quelqu'un qui connaît bien, il s'appelle Pierre, je ne sais plus comment, là, qui a fait le film et qui est né dans le village. C'est-à-dire que finalement, les gens qui ont vécu ces choses très traumatisantes,
même bébé,
et éprouvent le besoin de laisser une trace de ce qui s'est passé pour eux.
Mmh. Et lui, ses parents, ils ont survécu à cette marche et après ils n'ont pas été pris dans la...
Vaxman ?
Oui, ses parents, ils n'ont pas été pris dans la rafle.
Je ne crois pas. Mmh. Non, parce qu'ils sont passés de l'autre côté. Ouais. Ils sont... Ça, on pourrait lui demander, j'ai aussi les coordonnées. Mais il faut que je note ce qu'il faut que je vous dise.
Il y en a quelques-uns qui sont partis par la montagne et qui ont été arrêtés à Borgo. Mmh.
340.
Okay. Yeah. Mmh. Ouais.
Alors maintenant, il y a une plaque à Saint-Martin-Vésubie.
Oui, mais il y en a même deux, je crois, non ? Il y en a...
Alors, il y a deux, oui, enfin, il y en a trois. Il y a même quatre.
C'est pire qu'un accouchement.
Oui, c'est très difficile. Elle a été basée cette année en septembre. Alors, il y a une première plaque qui a été faite par Klarsfeld en 1995. Vous n'étiez pas encore née.
Oui.
Une première plaque pour dire ce qui s'est passé. Alors, c'est une plaque... une plaque qui raconte une histoire. C'est rare, mais c'est une plaque qui raconte l'histoire des Juifs de Saint-Martin-Vésubie. Mmh. Bon, la première arrestation en 1942, on les a expulsés. Et tout ça, c'est bien raconté. Et il dit bien qu'il y a des Juifs qui sont partis, qui ont été repris à Borgo San Dalmazzo, mmh, et déportés de nouveau via Nice. Ça, c'était la première plaque, donc 1995. Ensuite, là, il y a eu en fait trois plaques qui ont été dévoilées. Au mois de septembre cette année, donc septembre 2016. Une pour les justes, parce qu'il y a eu des gens qui ont sauvé, donc une pour les justes, et une autre, non, c'est en fait c'est sur la même plaque, une autre pour les juifs qui ont été déportés. Donc il y a une liste des juifs qui ont été déportés de Saint-Martin-Vésubie, il y en avait, et sur la même plaque qui est très grande, les juifs qui ont été déportés de Borgo San Dalmazzo après la marche.
Oui.
Donc voilà. Et il y a une plaque, je crois qu'elle a été enlevée sur le passage de ces juifs au col de Fenestre. Il y avait une plaque qui avait été posée en disant qu'il y avait eu des... Voilà.
D'accord.
Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quatre plaques, en fait.
Et quand vous dites que ça a été difficile par rapport à ces plaques, c'est-à-dire...
Ça a été très difficile parce qu'il y avait une opposition.
Ah bon ?
De la, non pas de la municipalité, pas du maire, mais de
certaines personnes de la population.
Voilà.
Et puis, il y a des politiques qui s'oppositionnent, on ne sait pas trop.
Non, ce n'était pas tellement les politiques, c'était vraiment les habitants de Saint-Martin-Vésubie.
Et pourquoi ?
Parce que ce n'est pas très clair.
Ouais. C'est ailleurs.
C'est-à-dire qu'il y a eu, comme partout, il y a eu des gens qui ont aidé, nommés justes. Et il y a eu des gens qui ont dénoncé.
Oui.
Donc, c'est comme partout.
Les dénonciations rapportaient de l'argent, hein, quand même. Mmh. Hein.
Oui.
C'est...
Donc voilà, donc il y a une polémique, il y a une dame qui a réécrit l'histoire, qui a écrit une très belle histoire, mais c'est pas la bonne, donc si vous voulez. Une polémique autour de ça.
D'accord. Et pour revenir à Nice et les établissements à Nice. Est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de problème ?
Alors, en général, il n'y a pas de problème. Mais on a eu une fois au Canet un problème. C'est une association qui s'appelle les Vieilles Familles Rochevilloises. C'est le Canet Rocheville. Mmh. Donc ces Vieilles Familles Rochevilloises se sont opposées à ce qu'on mette une plaque dans l'école.
Pourquoi ?
Parce qu'ils trouvaient que... Bon, ils ne voulaient pas. Ils se sont opposés. Donc le Canet a contourné le problème en mettant une plaque dans un jardin public au Canet. Et là, on a demandé si déjà c'est plus sur une école. Parce que dans l'école, on met les enfants qui ont été déportés de l'école.
Mmh.
Bon, il y avait 4 enfants ou 5 enfants déportés du Canet. Mais on n'a pas retrouvé les registres. Donc on n'était pas sûr que ce soit dans cette école-là, c'est vrai.
Enfin, à partir du moment où un enfant fréquente l'école, si c'est pas exactement...
Par exemple, ici à Nice,
il y avait une école qui fonctionnait rue Ancy, elle a disparu, cette école. Oui. Donc,
Donc on a mis à l'école de la rue Aubert.
On a mis le nom des enfants ailleurs.
Mmh. Mais en marquant qu'ils venaient d'une autre école. Hein, oui. Je vous donnerai tous les trucs là, si vous voulez. Oui. Et donc, comme c'était plus sur une école, donc on a demandé à ce que les adultes qui ont été déportés du Canet soient aussi inscrits. Mmh. Donc là, c'est une plaque avec tous les déportés du Canet.
Mmh. Et du coup, vous étiez à Fiumcoda, c'est ça? Oui. Est-ce que vous connaissiez les enfants qui ont été déportés de cette école ou vous n'avez jamais...
Oui, j'ai même leurs photos de l'époque.
Oui. Enfin, vous les fréquentiez
pas encore. Plus du nom, mais quelques-uns, je me rappelle. Mm-hmm. Mais c'est pas des juifs.
Hein. Le frère de Maurice était à Fiumcoda.
Il a des photos de l'époque, de sa classe, mais pas les photos des enfants déportés.
Ah, oui. Tu dis Maurice? Tu dis que Maurice...
Le frère de Maurice était à Fiumcoda parce que à l'époque de Fiumcoda, la maternelle et le CP, je crois, étaient dans une rue à côté, mais pas à Fiumcoda.
Oui.
Donc le frère de Maurice était, lui, à Fiumcoda. Puis après, il est passé
au parc. Au parc.
Oui.
Oui, parce que le hasard veut qu'ils étaient dans la même école, alors qu'ils ne connaissaient pas. Mmh. Son mari n'était pas juif, il était juif, donc ils se sont quand même croisés. Ah. Donc c'est bien qu'il y a la place libre pour le coup.
Bonjour.
Ça va?
Je crois que c'est bon au niveau des questions. Enfin, je crois qu'on les a à peu près toutes abordées.
Tiens, j'ai répondu brièvement par écrit, si tu veux.
D'accord.
Alors, tu as pris des notes pour savoir quels sont les noms que qu'on a notés ou je vois vous donner des coordonnées. Il y avait Daniel Saulier, il y avait